franceinter.fr. Yves Decamp, bonjour.
Bonjour. 150 millions d'euros cachés au fisc espagnol. 12 journaux européens révèlent les dissimulations de revenus pratiquées depuis 7 ans par la star du Real Madrid, Ronaldo, entre autres. Un nouveau scandale du foot business qui n'avait pas besoin de ça. Alors que le nouveau président de la FIFA, Gianni Infantino, essaie de réformer. Premier bilan après 10 mois de mandat. C'est le droit de suite de ce journal. Protéger les Français, notamment les plus fragiles. François Hollande, en visite aux Émirats, précise ce que sera sa priorité jusqu'en mai, en adressant au passage une critique à droite. En attendant Manuel Valls, le Premier ministre ne sera pas au rassemblement de la Belle Alliance Populaire qui réunit les candidats à la primaire de gauche. Il réfléchit à sa candidature. Dans ce journal également, le dernier jour de deuil à Cuba, où seront célébrés ce soir les obsèques officielles du leader Maximo. Un week-end très Rolling Stones, un album plus un livre. C'est la prescription culturelle de Corinne Pellissier.
France Inter.
Un peu plus de 7,5 millions d'euros. À mi-chemin, le Téléthon 2016 fait un peu moins bien que l'année dernière. Mais tout va se jouer aujourd'hui, répètent les organisateurs. D'autant qu'il fait beau partout en France et que les gens ont un grand besoin de se retrouver. Laurence Thiénot-Herman, la présidente de l'Association française contre les myopathies, le sent. Elle sent cet engouement, cette mobilisation qui monte. Elle l'a dit à Justine Dinchet.
Cette année, plus que jamais, peut-être le contexte, les gens avaient envie, mais vraiment envie de se retrouver, de faire la fête, d'être ensemble, tout simplement pour faire des choses simples. Le Téléthon, ça représente aussi la France qui gagne, et c'est la France des solidarités, c'est-à-dire que on voit avec le Téléthon que 1 plus 1, ça peut faire 3, parce que le bénévole, plus le donateur, plus le scientifique, plus la famille, ça donne des choses incroyables, des résultats incroyables, et puis des perspectives surtout incroyables, parce qu'il est clair que dans les 5 années qui viennent, on aura encore plus de résultats que dans les 30 ans qui viennent de se passer. Parce qu'on ouvre vraiment un nouveau chapitre. Avant, c'était de la recherche, aujourd'hui, on est dans le développement de médicaments. Donc c'est un nouveau chapitre qui n'a été possible que parce qu'il y a eu toutes ces années de recherche et qui va nous emmener en effet vers de vraies solutions thérapeutiques. Pas seulement les chercheurs cherchent, mais les chercheurs trouvent.
Et le numéro n'a pas changé, le 3637 ou bien le site téléthon.fr. C'était au début octobre, l'agression de 4 policiers à Viry-Châtillon dans l'Essonne. Leur voiture incendiée par des cocktails Molotov, un adjoint de sécurité de 28 ans gravement brûlé. Il est d'ailleurs toujours à l'hôpital. On apprend ce matin qu'un adolescent de 17 ans a été mis en examen pour complicité de tentative de meurtre et écroué. Un second mineur de 15 ans, soupçonné d'avoir lui aussi participé à la fabrication des engins incendiaires, a été placé sous le statut de témoin assisté. Tous les deux avaient été arrêtés jeudi. L'attaque avait déclenché un vaste mouvement de colère chez les policiers qui manifestent d'ailleurs à nouveau cet après-midi un peu partout en France. Après Wikileaks, voici donc Footleaks. C'est un vaste système de dissimulation fiscale que révèlent 12 journaux européens dont Mediapart en France. Et ce n'est qu'un début. Les informations obtenues par l'hebdomadaire allemand Der Spiegel représentent une somme énorme de documents, de mails, de contrats et de comptes en banque concernant Jorge Mendes, un agent portugais de Cristiano Ronaldo et de José Mourinho, entre autres. Où l'on découvre que l'entraîneur de Manchester United aurait dissimulé 12 millions d'euros dans des paradis fiscaux, mais surtout que les fraudes de la star du Real atteindraient sur les 7 dernières années les 150 millions d'euros, comme le détaille Michael Hachdenberg, journaliste à Mediapart. Il est au téléphone de Jules Lavie.
C'est vraiment incroyable parce qu'à l'époque, il y a un régime spécifique pour les joueurs de foot en Espagne étrangers qui arrivent pour qu'ils n'aient à payer que très très peu d'impôts. C'est-à-dire que Ronaldo n'aurait eu à payer sur ces 5 années-là que 2 millions d'euros d'impôts. Ça peut vous paraître beaucoup, mais pour lui, c'est rien du tout. Il tourne une publicité pour une voiture, on a les contrats, c'est 6 heures de tournage, c'est 2 millions. C'est-à-dire qu'en une seule journée de publicité, il peut payer ses impôts. Mmh. Et c'est déjà trop pour lui. Il préfère mettre en place tout un système offshore qui lui permet, à l'époque, pense-t-il, de payer 0 euro d'impôts. Finalement, il se rend compte qu'il va se faire contrôler et se faire prendre par l'administration fiscale. Et donc, en catastrophe en 2014, il finit, en 2015 plus précisément, il finit par déclarer un petit montant issu de ces sommes placées aux îles Vierges. Et puis, pour les années suivantes, comme la législation change et que là, il va devoir payer vraiment un taux d'imposition normal, c'est-à-dire 45%, mmh. il décide au tout dernier moment, à quelques jours de la fin de cet avantage fiscal, de tout vendre de ses droits pour les 5 années à venir et ainsi d'éluder 30 millions d'euros d'impôts par une manœuvre qui est extrêmement problématique.
Voilà, pour bien mesurer l'ampleur de cette fraude, de voir l'infographie sur franceinter.fr. Ironie du sort, c'est cet après-midi que se dispute le Classico FC Barcelone contre Real Madrid, alors que les stars du Barça sont aussi en délicatesse avec le fisc. On se souvient que Lionel Messi avait été condamné en juillet à 21 mois de prison avec sursis avant de faire appel, et que Neymar fait toujours l'objet de poursuites. Ce côté obscur du foot, on ne le découvre pas, bien sûr. Combien d'autres encore dont les noms apparaissent au fil des révélations? Michel Platini dans les Panama Papers, ou encore Jérôme Valk, l'ex numéro 2 de la FIFA. C'était au temps de Sepp Blatter, il y a maintenant près d'un an, mais les choses ont-elles vraiment changé? C'est le droit de suite de ce journal. Quoi de neuf à la FIFA du président Gianni Infantino, Sébastien Hazard?
Forward, vers l'avant. Gianni Infantino connaît le sens des mots et c'est le nom donné à son projet. Le nouvel homme fort du football mondial assure que des changements importants ont été entrepris.
Ce n'est plus des décisions politiques par le comité exécutif sur quels sont les contrats commerciaux qui vont être signés. C'est une décision de l'administration, des professionnels, comme par exemple de faire des appels d'offres ouverts et transparents pour les droits, ce qu'on a fait. Et donc maintenant, ce n'est pas le président ou les membres du conseil qui décident, mais c'est bien l'administration sur la base d'appels d'offres.
C'est vrai, mais ces modifications profondes datent de l'an dernier, avant son élection, votée pour faire redescendre la pression alors que les scandales de corruption s'enchaînaient les uns aux autres. Gianni Infantino assure néanmoins que sa présidence sera marquée par une grande transparence.
On publie désormais les salaires, on va publier tous les chiffres sur les flux financiers, sur tous les revenus et les dépenses. On a quadruplé les investissements qu'on va faire dans le développement du football au sein des fédérations nationales avec des contrôles accrus.
Pas question en revanche de rouvrir les dossiers sensibles des attributions des Coupes du Monde 2018 et 2022 au Qatar.
Ça ne m'intéresse pas du tout de participer à des spéculations. C'est une décision qui a été prise en 2010, il y a 6 ans.
Le fait le plus notable depuis son élection, c'est sa volonté de réformer la Coupe du Monde en portant le nombre d'équipes qualifiées à 40 voire 48. Mais Gianni Infantino doit certainement se douter qu'il sera avant tout jugé sur le futur processus d'attribution de la Coupe du Monde 2026 pour éviter cette fois-ci, autant que possible, les soupçons de corruption et de malversation.
Bonjour Pim Verschuren.
Bonjour.
Enseignant-chercheur à l'IRIS, Institut des Relations Internationales et Stratégiques, spécialisé dans la géopolitique du sport. Gianni Infantino a donc remplacé Sepp Blatter à la tête de la FIFA depuis le mois de février. S'il fallait faire un premier bilan, quelque chose a-t-il changé dans les instances, dans les modes de fonctionnement du football mondial?
Alors, il est difficile de savoir en détail qu'est-ce qui a changé dans le mode de fonctionnement interne à la FIFA, mais plusieurs mesures phares ont déjà été adoptées. Elles avaient été promises dans la campagne par Infantino lorsqu'il était candidat. Les mesures phares, c'est tout d'abord le fait que l'organe exécutif de la FIFA, ce fameux comité qui était au centre des scandales, notamment dans l'attribution des Coupes du Monde 2018 et 2022, s'est élargie, est plus représentative du milieu du football, est maintenant nommée un conseil exécutif, et il y aura une plus grande séparation entre les fonctions opérationnelles et les fonctions plus politiques du président de la FIFA à l'avenir. Il y a aussi eu certaines réformes qui ont été appliquées sur le salaire du président de la FIFA, qui n'est pas encore établi, mais qui devrait être annoncé bientôt, qui serait moindre que celui de Blatter. Donc voilà, beaucoup de réformes pour l'instant qui sont symbolique, aussi la nomination d'une nouvelle secrétaire générale qui est une femme, une africaine. Donc là aussi, on est dans le symbole.
Est-ce qu'on arrivera un jour à cette transparence que tout le monde appelle de ses voeux, et comment y arriver d'ailleurs?
Le ménage continue parce que les enquêtes judiciaires du FBI, une enquête judiciaire actuellement en cours aussi en Suisse, vont peut-être aboutir et donc inculper d'autres personnes qui avaient des fonctions ou qui sont encore en fonction au sein de la FIFA. En interne également, des procédures disciplinaires sont en cours. Il va falloir continuer pour être sûr que ces méthodes d'arrangement tacite, de collusion entre les différents intérêts au sein de l'organisation, qui est extrêmement puissante, qui brasse beaucoup d'argent, qui a un pouvoir politique important, notamment vis-à-vis des pays candidats à la restitution de la Coupe du Monde. Il faut être sûr que le temps permette à tous ces différents arrangements au sein de la FIFA puissent être dépassés et espérer qu'une nouvelle génération de dirigeants change le fonctionnement de cette organisation.
Est-ce qu'il faudrait en arriver par exemple à des votes publics pour l'attribution des Coupes du Monde ?
Il est vrai que l'ouverture au public du football, pourquoi pas via Internet, à l'ensemble des licenciés de football de la planète, ou alors quelques membres représentatifs de chaque fédération, beaucoup plus que l'on a actuellement, pourrait permettre d'avoir au moins une élection plus propre que ce qu'on a vu pour le moment. Donc c'est une option qui est sur la table, qui en tous les cas, que je pense serait une bonne solution pour empêcher des arrangements comme on a pu l'avoir.
Alors, autre option sur la table, rapidement, c'est la Coupe du Monde à 48 équipes qui pourrait être proposée. C'est une bonne idée ?
Disons que c'est vu comme une proposition démocratique par Infantino, mais il est vrai qu'à mon avis, c'est aussi une façon d'enrichir la FIFA encore plus. La Coupe du Monde, c'est ce qui rapporte entre 4 et 5 milliards d'euros à la FIFA. C'est 95% environ des revenus de la FIFA. Et étendre à 48 équipes, ça permettrait de faire exploser les droits télé et d'enrichir la FIFA encore plus qu'elle l'est actuellement.
Motivation commerciale uniquement.
C'est pas la raison unique, mais je pense qu'elle se cache derrière les arguments de démocratie, d'ouverture au monde que vante Infantino. À mon avis, il y a des intérêts financiers qui sont tellement importants que c'est peut-être eux qui sont en train de guider cette décision.
Pim Verschuren, enseignant-chercheur à l'IRIS, co-auteur du livre « Le blanchiment d'argent, nouveau fléau pour les paris sportifs » paru chez IRIS Éditions. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous.
France Inter, le journal de 13h. Yves Decamp.
Il a pris le large au lendemain de l'annonce de sa non-candidature jeudi soir. Le président de la République s'est envolé pour les Émirats, loin des débats et commentaires sur sa personne, mais jamais loin du débat politique. En visitant ce matin le futur Louvre d'Abu Dhabi, qui doit ouvrir ses portes dans quelques mois, il est revenu sur la tâche qui sera la sienne jusqu'au mois de mai, en lançant au passage un message à la droite, Louise Baudet.
Terminée l'ambivalence, la double casquette, François Hollande va donc présider et rien d'autre. La preuve par le son et l'image à Abu Dhabi, où le président veut montrer qu'il garde tout de même un peu d'humour.
C'est pas tous les jours que je viens à Abu Dhabi. La première fois c'était en 2013, donc c'est la seconde. Je ne sais pas s'il y aura une troisième fois, donc pour ça que je prends tout mon temps pour vous parler.
Mais au-delà du bon mot, le message est clair, le président va désormais se concentrer sur ses tâches régaliennes, au premier rang desquelles la protection des Français.
Il faut protéger les personnes, c'est notre premier devoir. Les populations civiles qui sont menacées par les guerres ou par le terrorisme. Et mon action comme président de la République est d'abord une action de protection.
Présider et rien d'autre, sans pour autant se priver d'attaquer la droite et ses projets pour les fonctionnaires.
Quand il n'y a plus de fonctionnaires, il n'y a plus d'État. Quand il n'y a plus d'État, il n'y a plus de France. Il faut aussi en prendre conscience si l'on veut savoir vers quoi nous voulons aller ensemble.
Abu Dhabi, Louise Baudet, France Inter.
Et pendant ce temps, à Paris, les candidats à la primaire de gauche sont réunis en convention au sein de la Belle Alliance Populaire. Plusieurs ministres doivent intervenir à la tribune où n'apparaîtront pas Arnaud Montebourg et Benoît Hamon. Et surtout pas Manuel Valls, qui devait conclure les débats ce soir et finalement ne viendra pas. Le Premier ministre, dont on se demande maintenant, non pas s'il déclarera sa candidature, mais quand, Laurence Perron ?
Oui, alors Manuel Valls, là, est à Évry hein, pour le Téléthon. Il aurait été tout de même un petit peu indélicat qu'il vienne ici à la primaire de la Belle Alliance proposer sa candidature alors que le président est à l'étranger à Abu Dhabi. C'était censé être un meeting un peu apothéose ici pour Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du parti qui s'est démené pour faire exister une primaire à laquelle à l'origine il était plutôt rétif. Il n'en faisait pas mystère. François Hollande était son candidat. Il s'était engagé à être loyal, disait-il, mais pas impartial. Mardi matin encore, il disait qu'il était certain le président de la République serait candidat. Alors ce meeting convention sont attendus ici entre 4 et 5 000 personnes dans ces grands hangars de la Porte de la Villette. C'est une convention qui a été pensée par le grand artificier du PS comme l'étincelle avant le feu d'artifice de cette primaire dont le premier tour est prévu le 22 janvier. D'ici le 18 décembre, tous les candidats devront avoir déposé leur dossier. Ils sont 7 pour le moment, donc pas Manuel Valls encore. Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Marie-Noëlle Lienemann, Gérard Filoche pour l'aile gauche du parti, François de Rugy l'écologiste, Jean-Luc Benamias, le vert ex-Modem, ainsi qu'un tout nouveau venu là qui fait de la retape sur le trottoir, Maxime Legrand, 41 ans, conseiller d'opposition de Poissy dans les Yvelines. Ni Arnaud Montebourg, vous l'avez dit, ni Benoît Hamon ne seront présents. On ne les a pas invités à s'exprimer. Les ministres, ce devrait être Stéphane Le Foll, Marisol Touraine, Najat Vallaud-Belkacem, les ex-grognards désormais orphelins de François Hollande. Voilà, on est très très loin du plan d'origine du premier secrétaire du PS. À la Villette, Georges Thau, Laurence Perron, France Inter.
À l'étranger, un appel qui fait du bruit en Chine après un entretien téléphonique entre Donald Trump et la présidente de Taïwan, une première depuis 40 ans. La Chine proteste ce matin solennellement auprès des États-Unis en rappelant que l'île rebelle est une partie inaliénable du territoire chinois. Et puis à Cuba, la fin du parcours pour les cendres de Fidel Castro. Après 3 jours de voyage, elles arrivent aujourd'hui dans la ville qui fut le berceau de la révolution, Santiago de Cuba. Et très nombreux sont les Cubains qui se seront recueillis au passage du cortège, pas forcément castristes, mais humainement reconnaissant, Michel Fourneau.
Si Norma et Alejandro rechignent un peu à répondre à nos questions, c'est parce qu'ils ont une communication en cours et qu'une carte internet, ma foi, coûte assez cher quand même. Alejandro interrompt son chat pour admettre que la procession, ou très peu pour lui.
On est sur internet, ça nous attire.
Norma, en revanche, y est allée de bonne grâce, comme des centaines de milliers de Cubains. Ils l'aiment, je l'aime comme personne. C'est une bonne personne, c'était une bonne personne. C'est différent de la façon dont ils pensent, vous savez. Norma ne porte donc pas le régime dans son cœur. 41 ans, prof d'anglais, elle est lasse de sa vie cubaine. L'équivalent de 20 dollars de salaire par mois, liberté d'expression réduite, tracasseries administratives pour entreprendre, tout est difficile et illégal ici, dit-elle.
Vous pouvez marcher dans cette rue et vous verrez des petits marchands individuels pour vendre des téléphones, pour vendre... Mais vous devez être... Oui, c'est ça, parce qu'ils vous demandent qu'est-ce que vous avez acheté, est-ce que vous avez des papiers pour ça. Ici, ça fonctionne comme ça.
Norma demande des papiers aux États-Unis depuis 3 ans, ses frères y vivent. Elle espère que sa fille de 14 ans aura un meilleur avenir là-bas. Paradoxe, Alejandro, si peu concerné par la mort de Castro du haut de ses 16 ans, vient de rentrer, lui, des États-Unis alors qu'il a un visa.
Je pense que les gens sont plus sympas ici. Là-bas, la technologie sépare beaucoup les gens. Ici, tu vois, on prend le temps, on s'assoit, on est tranquille, on met de la musique. L'ambiance est moins fermée.
Choc de société, l'une collectiviste au risque d'être étroite, l'autre consumériste au risque d'y perdre son sens. Santiago, Michel Fourneau, France Inter.
Des centaines de milliers de personnes sont attendues ce soir à Santiago pour l'hommage officiel au leader Maximo, notamment le discours de Raúl Castro. Allez, un week-end complètement Stones pour la prescription culturelle de ce samedi 13h. D'abord, un nouvel album des Rolling Stones, le premier depuis 11 ans, Blue and Lonesome, 12 morceaux, 12 reprises de blues, connues ou moins connues. Et puis, un livre. Bonjour Corinne Pellissier.
Bonjour.
Un énorme livre pour aller plus loin, non pas dans l'histoire, mais dans la discographie des Rolling Stones. 700 pages. Ça s'appelle La Totale.
C'est le travail de deux passionnés, Jean-Michel Guédon, Philippe Margotin, issus de l'industrie musicale, qui nous livrent cette collection, La Totale, grâce à laquelle nous sommes enfin devenus incollables sur les Beatles et Bob Dylan. À travers ce très beau volume, ils décortiquent, ils analysent tous les morceaux des Rolling Stones, 340 chansons depuis leur premier titre, Come On, en 63, qu'on entend, jusqu'au morceau de leur album sorti il y a 4 ans. C'est un ouvrage à la fois érudit, parce qu'il contient énormément d'anecdotes, de portraits de musiciens qui ont travaillé avec eux, de producteurs, de groupies, et à la fois très ludique, très agréable à consulter. Chaque morceau est disséqué avec beaucoup de soin, de précision, avec un focus sur le contexte et toute la partie en studio, les instruments utilisés, le nombre de semaines par exemple où le titre est resté classé dans les charts.
Et si je vous dis par exemple Brown Sugar sur l'album Sticky Fingers?
L'album américain des Rolling Stones, très fortement influencé en tout cas par leur tournée outre-Atlantique qui les a beaucoup marqué. La tragédie d'Altamont, Les Angels qui avait assuré le service d'ordre et qui avait tué un fan, la rencontre aussi avec Warhol et ce morceau Brown Sugar dans la plus géniale tradition des Stones, très sexe, drogue et rock'n'roll. C'est Mick Jagger qui a trouvé le riff, Keith Richards en avait été bluffé, lui le maître de la discipline. C'est le seul qui l'a loupé. Les paroles aussi à l'époque ont fait couler beaucoup d'encre. Brown Sugar, l'héroïne, mais aussi les beautés noires réduites en esclavage dans le Sud. Tout cela est expliqué dans le livre, les références ne manquent pas. Sur ces 700 pages aussi, beaucoup d'illustrations, plus de 400 clichés par les plus grands photographes de la scène rock, 50 ans de carrière, 22 albums studio, 32 compilations, 8 lives, plus de 400 millions d'albums vendus dans le monde et aujourd'hui ce livre indispensable.
Et on a compris que vous aviez très bien apprécié ce livre, les Rolling Stones, La Totale aux éditions du Chêne, 49,90€, une bonne idée de cadeau de Noël. Avec un autre bon plan pour ce week-end peut-être, Corinne?
Le musée d'Orsay à Paris qui fête ses 30 ans avec un grand week-end de festivités, des chorégraphies de José Montalvo dans la Grande Nef et des démonstrations de danse du Second Empire en costume pour accompagner la grande expo du moment.
Merci Corinne Pellissier. On parlait de foot en début de journal, le foot le vrai pour terminer avec à l'instant instant l'échec des Bleuettes à Port Moresby en Papouasie-Nouvelle-Guinée, une information très exotique. L'équipe de France féminine des moins de 20 ans battue en finale du mondial 3-1 par la Corée du Nord. Et puis peut-être une circulation alternée à Paris et en banlieue lundi. Le préfet de police en décidera ce week-end selon l'évolution de la situation. Valérie Pécresse, la présidente d'Île-de-France, fait savoir ce matin sur Twitter que la région, en tout cas, assumera la gratuité des transports. En attendant, au quatrième jour de pollution, il est demandé aux franciliens de réduire leur vitesse de 20 km/h. Les plus de 3,5 tonnes doivent contourner la région par la francilienne. Bonne journée.
C'était le journal. Merci Yves Decan.